Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, bienvenue dans ce JDR Backseat qui se trouve dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en public. Je salue ce public, malheureusement, qui me fait dos. On n'est pas encore tout à fait dans le jeu de rôle. Je suis avec quatre invités exceptionnels, de gauche à droite, c'est le cas de le dire. Bonjour Malek, ça va ?
Bonjour, là je suis Malek.
Bah, pour l'instant, t'es Malek. Mais okay. À un moment, on va se transformer. Il y a des gens même qui ont des costumes, vous verrez. Donc, Malek, merci d'être avec moi.
Merci
très
à toi.
Content de te retrouver à nouveau dans une OP Libé. Voilà, on est frères de Libé.
Exactement.
Dis-moi, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui viennent par le chemin du jeu de rôle, en 10 secondes, tu es qui ? Tu fais quoi ?
En 10 secondes, j'ai travaillé 10 ans pour des politiques. Je m'occupais de leur communication. Je suis chroniqueur sur Backseat. J'anime un podcast à côté qui s'appelle Autour de moi. Et ça fait déjà une vie bien chargée et bien remplie.
Ben c'est super, merci beaucoup Malek.
Merci
à
beaucoup.
Ta gauche,
oui.
Usul.
Bonjour.
Bonjour Usul, ça va ?
Ouais, moi je suis venu parce qu'on m'a dit qu'il y aurait François Hollande, mais pour l'instant je suis déçu.
Ben peut-être ce sera toi, dis-moi. Alors dans la vie réelle, que fais-tu ?
Justement, dans la vie réelle, je suis chroniqueur pour Blast, j'ai fait un peu de Mediapart, ça fait 10 ans que je parle de politique sur Internet, en gros. Voilà, j'ai une chronique qui s'appelle Rhinocéros, qui fait beaucoup de critiques des médias surtout, et chroniqueur Backseat évidemment.
Merci Usul. À ta gauche encore, Léa. Bonjour Léa.
Bonjour.
Alors Léa, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je suis journaliste politique et fondatrice d'un média qui s'appelle Popol, qui propose un regard féministe sur la politique, et je suis aussi autrice, dont un ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle Au revoir Simone.
Au revoir Simone, et Popol, c'est P-O-P-O-L.
Tout à fait.
Merci beaucoup Léa. Et enfin, Maudie. Qui es-tu, Maudie ?
Je suis streameuse.
Et moi, c'est... Pardon, j'ai oublié de dire chroniqueuse Backseat.
Désolée. Ça va de soi maintenant.
C'est important. Bien
sûr. Moi, je ne suis pas chroniqueuse Backseat.
Pas encore.
Mais, voilà. Mais je fais du divertissement, surtout sur Internet, jeux vidéo. Et je suis aussi chroniqueuse pour Blast, donc jeux vidéo et politique.
D'accord, merci Maudie. Juste, il y a une petite subtilité parce que les gens qui disent « Ah, Maudie, elle est trop bien », mais ton nom est un petit peu compliqué si on veut te chercher sur Google, c'est quoi ?
M-O-D-I-I-E.
Deux I. Merci Léa, tu peux enfiler ta combinaison extraordinaire. Je vais remercier la Libération. Merci beaucoup de nous permettre de faire ça. Merci à Gozu qui est en coulisses, Equalprod qui a tout organisé, en particulier Victor et Nicolas qui sont à moitié de chez Gozu. Aujourd'hui, nous allons refaire, en fait, nous ne sommes pas encore en 2027, mais l'échéance s'approche. Déjà, il y a des candidats qui se présentent pour dans la vie réelle, qui se présentent, comme Xavier Bertrand, qui ont déjà fondé leur parti et déclaré leur candidature à la présidentielle. Et nous avons des personnages fictifs qui vont essayer de gagner votre cœur, en tout cas, pour les présidentielles 2027, dans un jeu de rôle qui est un petit peu scénarisé, qui est aussi mis au goût du jour avec des problématiques d'aujourd'hui. Je vais vous demander, j'ai déjà un peu briefé les gens qui sont derrière moi, mais chers spectateurs qui sont en ligne, je vais vous demander aussi d'être un personnage du jeu de rôle, c'est-à-dire, j'imagine que vous êtes sur la chaîne de Jean Massier, vous n'avez pas forcément une affinité droite-extrême-droite, et pourtant, on a par exemple Maudie qui va incarner quelqu'un d'extrême-droite. Il faut lui laisser sa chance. C'est-à-dire que je vais vous demander de ne pas forcément dire « Ah, Malek et Usul, ils sont trop de gauche, je suis de gauche, je vais voter pour de gauche. » Écoutez ce qu'ils disent et dites « En vrai, le discours est cohérent, ça se défend, tiens, je vais voter pour cette personne, ce qui permettra de donner une chance de faire play. » Il va falloir jouer le jeu aussi. Après, si les solutions ne sont pas bonnes, évidemment, que le meilleur gagne. Nous allons commencer et je vais vous demander, alors avant qu'on passe à la fameuse séquence de la déclaration de candidature à la présidentielle, je voudrais savoir, on va faire encore une fois de gauche à droite, qui êtes-vous ? Alors Malek, je vais arrêter de t'appeler Malek, tu es ?
Je suis Karim Benamara.
Karim Benamara, et ton parti c'est quoi ?
Je suis de la Révolution écologique et solidaire.
Très bien, alors Karim Benamara, tu vas me donner un chiffre, excuse-moi, entre 1 et 3.
2.
De Karim Benamara, homme du peuple, qui alternait entre militantisme et travail à l'usine Cogip. Il touche les gens par sa sincérité et le caractère concret de ses idées. On a envie de voter pour lui, mais pour beaucoup, il manque de ce qui fait la stature d'un chef d'État. Par ailleurs, que connaît cet ouvrier d'un budget ou des relations internationales ? Il va devoir aujourd'hui avec nous convaincre et faire ses preuves. À ta gauche se trouve...
Fabien et vous.
Karim Benamara, du coup.
Fabien. Karim. Et vous ?
Karim Benamara.
Voilà. Karim. Fabien. Alors, Fabien et vous, quel est ton parti ?
Je représente le Front écologique nouveau pour une Europe citoyenne, le FENEC.
Très bien. Alors, Fabien, donne-moi un chiffre entre... Enfin, un ou trois.
Un.
Un. Karim et vous, vous le connaissez bien, il est bien entendu maire. Maire depuis plusieurs mandats de la plus grande ville de France, Paris.
Yeah.
Et il a une expérience reconnue dans la gestion, mais aussi un grand bassin d'électeurs qui le connaissent et apprécient son travail, même s'il a de nombreux mécontents, saccage Paris. Hélas, pour beaucoup, Paris n'est pas la France, et encore moins l'international, et il faudra que le candidat et vous fassent ses preuves.
Parfait.
À ta gauche se trouve...
Charlotte de Villeneuve.
Charlotte de Villeneuve, quel est ton parti ?
En avant.
C'est le nom du parti, en avant. Dis-moi un chiffre entre 1 et 4.
2.
2. Attends, tu me rappelles ton nom, excuse-moi, tu t'appelles ?
Charlotte de Villeneuve.
Charlotte de Villeneuve a toujours
Mais
été...
Mais vous pouvez m'appeler Charlotte.
Charlotte. Charlotte a toujours été politicienne et aussi une professionnelle ENS, puis ENA... puis maire de Brest, excusez-moi, président de la région Bretagne, puis ministre du budget. Affiliée au parti de la majorité présidentielle, elle a décidé de voler de ses propres ailes en faisant sécession et en promettant le changement. Le changement à travers un slogan que tu peux dire ?
Tout à fait, autorité et innovation pour une France souveraine.
Elle a une excellente expérience du gouvernement qui rassure certains, même si d'autres estiment que c'est une candidate comme les autres. À ta gauche se trouve...
Marie-Caroline de la Molle Fayis.
Dont le parti est...
La famille des patriotes.
La famille des patriotes. Donne-moi un chiffre entre 1 et 4 qui n'est pas 2.
4.
4. Marie-Caroline de la Molle Fayis a accumulé une fortune remarquable. Dans un groupe d'entreprises privées qui touche à tous les secteurs d'activité. Et elle pense qu'il est temps de faire changer cette France qui lui a tant apporté, mais il y a encore tant à faire. Et si la France était une entreprise comme une autre ? Tout le monde l'envie et tout le monde rêve d'un succès que Marie-Caroline leur promet. Mais hélas, en France, on dit qu'on n'aime pas les riches.
Pas la réussite.
Non, une remarque, non ? C'est bon ? Tout va bien ?
Non, j'étais d'accord, on n'aime pas la réussite dans ce pays.
Alors, notre chère, je vais prendre les noms, excuse-moi, tu t'appelles Charlotte. Charlotte, tu es maire de Paris.
Non,
excuse-moi.
Alors ça, c'est certainement pas, non.
Excuse-moi.
Les ouais. Pistes cyclables, tout ça, c'est moi.
Bon, on va commencer, on va faire ensuite gauche à gauche. Donc, en fait, toi, en tant qu'ouvrier, t'as un peu moins de surface de célébrité que le maire de Paris, par exemple. Donc, tu vas te séparer d'une de tes voix. Les voix sont symbolisées par des petits jetons et tout le monde part avec 6 jetons. Ils ont des couleurs parce que ça représente des bassins d'électeurs, du précariat, des entrepreneurs, etc. Donc, tu as des couleurs. Les super riches, c'est les oranges. Les entrepreneurs, c'est les rouges. Le précariat, c'est les blancs. Les bobos, c'est les noirs. D'ailleurs, tu en as deux, cher Fabien. Les retraités, c'est les bleus. Les classes moyennes, c'est les verts. Et les étudiants, c'est les jaunes. Donc, tu dois t'en séparer dans.
Je vais me séparer de la classe moyenne.
Très bien. Donc, on a un assesseur qu'on a pris dans le public, qui s'appelle Marc, qui va venir chercher.
Mais, je connais Marc. Merci, Marc.
Sache, cher Karim, que oui. Comme tu es quand même un capital sympathie, tu as le droit de prendre une voix, celle que tu veux, chez un adversaire
ah
que
bon
tu veux.
Je sais pas.
Non, pas toi.
Il est pas terrible l'assesseur.
Alors,
je comprends pas les.
Je vais en prendre chez Charlotte de Villeneuve.
Alors, Charlotte, tu peux lui donner la voix que tu veux, et c'est lui et il la récupère.
Voilà. Je lui donne, la voix que je ne veux pas, en fait.
Oui, exactement. Mmh.
Mmh. Mais on veut toutes les voix.
Oui, c'est ça. T'en donnes une voix quand même.
Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la France et les Français et les Françaises.
Donne-lui une voix.
Allez.
Eh bien, alors.
Allez,
les vieux. Tiens.
Merci.
Je lui file les retraités, du coup.
Oui. Parce qu'on va, nous, on va leur donner une vraie retraite à 60 ans.
Cher maire de Paris, toi, tu as une voix en plus. Tu veux quoi ?
Moi, je pense qu'il me faut des millionnaires, là.
Très bien.
Parce que je fais des super partenariats, tout ça, quand même, avec la mairie.
Super riche pour le maire de Paris. Mmh. Mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu as une casserole.
Bah, ça m'étonne
pas.
Oui,
c'est ça. C'est, C'est ton passé. Attends, j'essaie de retrouver ma liste de casseroles. Donc, tu me donnes un chiffre entre 1 et 15.
Ah ouais, il y en a plein. Des
casseroles. Ah oui.
13.
Pour information, c'est des casseroles de la vie réelle. J'ai enlevé les noms. Également, je tiens à vous dire qu'on ne va pas la noter, cette casserole. Simplement, si dans le courant des débats, dans le courant des interventions, vous faites mention de cette casserole, s'il gagne des voix, vous avez le droit de lui en prendre une. Oh, enfin, la première personne qui fait mention de la casserole a le droit de lui en prendre une. Tu as dit 13.
Mmh.
Eh bien, en tant que maire de Paris, tu as utilisé le temps de travail d'une collaboratrice à la mairie de Paris pour écrire ta biographie, qui ne s'est pas très bien vendue en plus. Ça, c'est ta casserole. Ensuite, nous avons notre politicienne de profession. Toi, tu as crapahuté, tu as beaucoup de contacts, tu as deux voix supplémentaires. Tu veux quoi ?
Alors, j'aimerais bien les bobos quand même.
D'accord. Juste de bobos ou autre chose ?
Juste un bobo. Et puis, certains étudiants, parce que après tout, c'est l'avenir de la France. Donc,
très bien.
Je t'en donne un.
Il y a des écoles de commerce. Hein.
Exactement.
Et malheureusement, toi, tu as deux casseroles.
Ah.
Donc, donne-moi deux chiffres qui ne sont pas 13.
5 et 10.
Alors, tu as acheté un petit appartement en cash en le finançant par la vente de tableaux flamands auprès d'un avocat malaisien. Problème, on n'a jamais vu les tableaux. Ça, c'est ta première casserole. Et à la mort de Johnny...
Oula.
Oh, waouh.
Tu as tweeté, cet exilé fiscal mérite d'être oublié.
J'aurais jamais fait une chose pareille.
Et si tu l'as tweeté, c'est, alors peut-être t'as été hacké. Mais justement, on en parlera durant l'émission. Et enfin, notre milliardaire qui manipule les foules, parce que peut-être tu as des networks sous ton contrôle, tu as le droit de donner une voix de n'importe qui à n'importe qui, mais pas à toi.
Je dois donner une voix.
Tu prends une voix de, je sais pas, de Fabien.
Ah, et je vole une voix.
Tu voles une voix et tu la donnes à quelqu'un d'autre, mais tu la donnes pas à toi.
D'accord. Je vais voler une voix de monsieur Evou pour la donner à madame de Villeneuve.
Ah, très bien.
N'importe laquelle ?
C'est moi qui vole classe moyenne.
Ah. Classe moyenne.
Bien aimable.
Pour la donner à qui ?
À
Charlotte ?
Voilà.
On va peut-être pas s'appeler par nos prénoms tout de suite. Hein ?
Les voix, comme vous pouvez voir, ça va, ça vient. Mais parmi les voix qui vous sont attribuées, vous pouvez en placer deux parmi vos militants. Quand vos voix sont des militants, vous ne pouvez pas les perdre. Donc je vous invite à mettre en militant des personnes qui sont susceptibles de vous quitter. Voilà. Comme ça, vous ne les perdrez pas. Et c'est enfin le grand moment. On va faire un petit vote au hasard, voilà. On va commencer par Fabien. C'est le grand moment des déclarations de candidature à la présidentielle. Tout le monde va faire une déclaration. Je vais me retourner ensuite et le public va lever la couleur de la personne qui a le plus convaincu, qui gagnera des voix. Voilà. Donc, c'est toi qui commences. Tu as été tiré au hasard et tu vas faire... Alors déjà, comment tu fais ta déclaration ? N'importe quel vecteur est possible. Et qu'est-ce que tu dis ? Tu as une minute, pas plus.
D'accord. J'ai lancé une chaîne YouTube, hein, évidemment.
D'accord.
Pour essayer de la lancer. Et mes militants la bombardent ça un petit peu partout. Et donc, dedans, je dis, donc ceux qui sont là l'ont déjà entendu, mais on va la refaire. Vous voyez ce vélo ? Je suis devant un vélo dans un atelier de réparation. Et je dis, vous voyez ce vélo ? Aujourd'hui, on sait, parce que les temps ont changé, que tout se répare, tout se bricole, tout se construit. On peut plus jeter tout ça. C'est pas parce qu'il est cassé qu'il faut le jeter à la casse, ce vélo. Eh ben, l'Europe, c'est pareil. Et avec nos partenaires européens, aujourd'hui, il faut qu'on retrouve ensemble un souffle pour construire l'Europe de demain, une Europe écologique, une Europe sociale. Et pour ça, évidemment, on a besoin de vous et on a besoin du FENEC. Et c'est pour ça que je me présente, pour enfin porter nos idées à l'échelle qui est pertinente, l'échelle de l'Union européenne, mais surtout l'échelle du pays tout entier.
C'est merveilleux. Merci beaucoup. À toi. Quelle est ta... Vous pouvez applaudir, si vous...
Oui.
Charlotte, comment fais-tu ta déclaration ?
Alors moi, j'ai fait le choix de recourir à ce que l'on appelle l'intelligence artificielle pour créer une chanson pour porter nos valeurs, à savoir les valeurs qui sont l'autorité, l'innovation, afin de redonner à la France cette place de souveraineté fondamentale, qu'elle puisse regagner son blason dans le concert des nations. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que sans autorité et sans innovation, eh bien, c'est la dérive vers la bordélisation, c'est la dérive vers les hackers, les choses comme ça. Et donc, pour une France forte et souveraine, il me semblait nécessaire de mettre de l'autorité dans l'innovation. Et donc, c'est pour ça.
Non, on respecte quand même les déclarations des autres. Vas-y, Léa.
Et c'est pour ça que j'ai décidé de dompter l'outil de l'intelligence artificielle afin de montrer que nous pouvons aussi retrouver notre souveraineté sur cette intelligence artificielle qui fait peur à tout le monde, alors qu'en réalité, c'est fondamental pour la nation.
L'intelligence artificielle, t'as produit une chanson.
Oui.
Une fois que t'as ce fichier, tu le diffuses de quelle façon ?
Je l'ai diffusé sur mes réseaux sociaux, qui sont alimentés par des stagiaires très bien rémunérés.
Très bien, merci. Je me retourne vers
Marie-Caroline.
Oui. Je vais y arriver.
T'inquiète.
Je te promets. Marie-Caroline, comment tu fais ta déclaration? Ah, excusez-moi, il n'y a pas eu d'applaudissements. Voilà. Marie-Caroline.
Oui. Je souhaite faire ma déclaration à la sortie d'une école que j'ai visitée pour voir l'état lamentable de nos services publics.
Donc il y a une caméra de BFM TV.
Voilà, j'ai invité les journalistes à venir.
Bien. Pour... Qu'est-ce que tu dis ? Tu es devant la caméra.
Bien sûr. Je dis, aujourd'hui, les temps sont graves. Mes chers compatriotes français, je sais que nombreuses sont les familles qui doivent se serrer la ceinture. Une femme sur trois déclare que si elle ne souhaite pas avoir d'enfants aujourd'hui, c'est à cause de la crise. Je suis femme, française et fière de l'être. J'ai 6 enfants et je souhaite que nombreux soient les autres bambins qui puissent grandir en France. C'est pour cela que je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle pour faire France et avant tout faire famille française.
Et enfin, Karim, comment fais-tu ta déclaration ?
Avant de faire ma déclaration, je voulais dire que ce qui était important pour moi, ma boussole, c'était la jeunesse.
Oui.
Que l'on retrouve ici, public de la Sorbonne. Jeunesse à qui j'ai déjà un bouquin, pour les jeunesses, par les jeunesses, aux éditions Malek Délégué. Bouquin que j'ai écrit seul, pas comme monsieur et vous, avec son fameux emploi fictif de la mairie de Paris.
Ça, non, c'était pas un
et c'est pour ça que je vais m'adresser à vous.
Voilà, la démagogie, le populisme, tout
de suite. Alors, tu t'adresses comment ?
Je m'adresse à vous, aujourd'hui, ce soir, maintenant, peuple de la Sorbonne. Camarades de la Sorbonne, de la jeunesse en ébullition, rêveurs audacieux, rebelles sans frontières. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non comme un simple militant des luttes, mais maintenant comme votre candidat à l'élection présidentielle. Je m'engage à porter haut et fort les aspirations de cette jeunesse résiliente, rebelle, à défendre tous vos droits, vos rêves, vos espoirs, dans chacun de vos débats, dans chacune de nos luttes. Parce que je crois en une France où chaque jeune, chaque étudiant, pas comme vous là les vieux. Chaque citoyen a sa place et sa voix, où l'avenir n'est pas dicté par l'intérêt des puissants, mais façonné par la volonté collective du peuple. Oui, l'heure est venue pour un projet de transformation radicale de la société française, pour cette révolution, la révolution écologique et solidaire. Enfin, nous renverserons les obstacles. Oui, nous abattrons la forteresse. Nous briserons les chaînes de l'oppression et nous écrirons ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre nation. Peuple de la Sorbonne, rejoignez-moi dans cette quête pour un avenir meilleur, pour une France plus juste, plus solidaire, plus libre de tous. Vive la révolution écologique, solidaire et démocratique. Vive la France et vive la 7ème République.
Ah ouais.
Alors, je me retourne pour deux personnes issues de la classe moyenne. Je vais me retourner et lever la couleur du candidat qui vous a le plus convaincu. Et si, alors, les couleurs. Vous levez aussi vos couleurs. Quand même, c'était...
Oh là là.
Donc, ce sera deux classes moyennes pour... Attendez, restez debout. OK. Ce sera deux classes moyennes pour Karim et... Ce sera précaire pour Charlotte.
Ah,
et là.
Bah, précaire, je ne suis pas certaine que ce soit très utile, mais enfin, je prends quand même.
Eh bien, Karim, ta campagne, on va dire, commence à toute berzingue. Ouais. Dis-moi un chiffre entre 1 et 60, des aventures qui vont arriver lors de ta campagne.
L'Olympique de Marseille jouant ce soir, le numéro 13.
Le numéro 13. Les vacances au ski des Français.
Oh.
La France a peur. À cause d'un mouvement national social des chefs de bord, les vacances de février, on était en février dernier, février 2024, les vacances de février sont en péril. Les orateurs politiques, et notamment de droite, ont toujours du mal à s'insurger publiquement contre les grèves qui font partie du paysage français. Et en ces temps de questionnement sur le pouvoir d'achat, normalement, les Français soutiennent ces mouvements. Mais les vacances sont impactées. C'est une faille dans laquelle s'engouffrent les maires, par exemple, de villages, de stations de ski, et aussi des politiques. Donc, ton directeur de campagne te dit, faut que tu t'exprimes sur le sujet, et voie royale, t'as une place dans les grandes gueules demain matin. Faut que tu parles du sujet. Ça va être le thème, d'accord ? Donc, le sujet est abordé, il y a 1 million de Français qui sont en train de t'écouter. Qu'est-ce que tu dis sur ces grèves de mouvement national qui impactent les vacances ?
Ces vacances, ce droit de privilégier. Oui, oui, parce que tout le monde s'insurge, sauf quand on touche à ce petit privilège des petites vacances au ski, qui, rappelons-le, sont un désastre écologique. Rappelons-le. Moi, ce que je veux défendre, pendant que tous ces riches sont en train de pleurer pour leurs petites vacances au ski, je veux défendre le droit aux vacances pour tous. Oui, je veux
mais déplacer... Mais enfin, monsieur, ces gens qui travaillent toute l'année, ils prennent leurs vacances, ils ne peuvent pas aller en vacances. C'est ça votre réponse, de ne pas aller en vacances ?
Mais des vacances pour détruire la planète, bravo. Mais ce n'est pas les vacances que nous souhaitons. Nous ne voulons l'émancipation pour la jeunesse, permettre à tous les jeunes de France, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, de partir en vacances.
Mais alors, qu'est-ce que penseriez-vous, par exemple, de trains sans conducteur ? Ça résoudrait le problème.
Et puis des trains sans conducteur, et on va continuer, des caisses sans caissière, et tout le monde... Où va-t-on ? Où va-t-on, mon cher ?
Vous voulez des caisses avec des caissières ?
Bien sûr que oui, parce que vous êtes les ennemis des travailleurs, c'est ce qu'on est en train de vous dire.
On n'est pas là, nous, on n'est pas là.
De
nous.
Mon voisin.
T'es aux grandes gueules, tu te démerdes avec les grandes gueules.
Malheureusement, je suis avec Truchot et Marshall, donc voilà. Je peux faire comme si je les pointais du doigt. Ah. Vous êtes tous en train comme ça de défendre vos petits privilèges. Laissez-moi défendre, oui, les travailleurs, ceux qui veulent garder leur poste, ceux qui veulent travailler au quotidien pour pouvoir bénéficier de leurs vacances.
Doit-on accepter le droit de grève sans réserve ou ne tolérer que certains jours, par exemple ?
Mais un droit de vacances sans réserve et de grève illimitée, surtout.
Donc même pendant les Jeux Olympiques ?
Et encore plus pendant les Jeux Olympiques, grève partout, grève partout et tout le temps, même aux Jeux Olympiques.
Est-ce que t'es un super riche ou un entrepreneur ?
Absolument pas.
D'accord, en tout cas tu gagnes un précariat, bravo. Alors, deuxième place, à toi Charlotte, dis-moi un nombre entre 1 et 50.
5.
5, c'est parti. Salon de l'agriculture.
Ah.
C'est un passage incontournable. Hein. Alors, c'est parti. Donnez-moi une seconde.
Putain, t'as plein de gens, toi.
Charlotte.
Des gens.
Le salon de l'agriculture est un incontournable des politiques. Ouais. Il sera visité par le président Macron au premier jour et par Jordan Bardella au deuxième, avec des ambiances très différentes. Est-ce que tu veux participer ou commenter ?
Je veux participer.
Donc tu y vas ?
Oui.
Donc tu y viens le troisième jour. T'as un agriculteur qui arrive, mais vous, avec vos intelligences artificielles, qu'est-ce que vous comprenez des vrais problèmes des agriculteurs ? C'est quoi les vrais problèmes des agriculteurs ?
Eh bien, figurez-vous, cher monsieur, qu'un des principaux problèmes des agriculteurs, c'est la lourdeur administrative, la charge qui pèse.
Mais oui, bien sûr, on ne comprend rien.
Absolument.
Des papiers tout le temps.
Et en plus, vous passez votre temps, au lieu de les passer auprès de vos bêtes, auprès de vos légumes. Vous passez du temps à remplir des déclarations, des papiers, etc. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des outils pour vous aider pour ça. Des outils qui vous permettront de ne plus avoir à le faire.
Des outils.
C'est-à-dire, vous connaissez ChatGPT ?
Mais, alors, c'est-à-dire qu'on remplit moins de papiers, mais il faut qu'on utilise un logiciel. C'est ça votre solution ?
C'est justement, la République que je vous propose, c'est de vous proposer d'être proche des services administratifs. Nous allons créer un guichet unique pour les agriculteurs. Un guichet unique. Imaginez la simplicité. Les démarches vont être beaucoup plus simplifiées. On va aussi vous laisser un droit à l'erreur. Ça, c'est très important. Alors, il est vrai que le président actuel l'avait proposé, mais nous irons encore plus loin dans cet accompagnement au quotidien. Et l'outil de l'intelligence artificielle, l'innovation, la technologie peut vous aider.
Et la loi Egalim, par exemple ?
Je pense qu'il faut effectivement la repenser.
Ah, c'est
la
vrai?
Repenser, oui, oui, oui. Parce que de toute façon, on se rend bien compte que vous n'êtes pas satisfait et satisfaite. Et on entend votre détresse. D'accord. On comprend que c'est très difficile pour chacun et chacune de se trouver une solution pour pouvoir vivre correctement et dignement de ce métier qui est si noble, le métier le plus important pour nous, pour la France. Merci. Le métier qui fait que nous avons un poids fondamental dans l'Union européenne. Et donc il faut vraiment déjà abaisser la lourdeur administrative pour les agriculteurs.
Ouais, c'est pas très convaincant, mais je voudrais un exemple concret, Charlotte.
Oui.
Aujourd'hui, le lait, il est vendu 405 euros la tonne à Lactalis. Et ensuite, elle le revend. La tonne, enfin litre par litre dans les magasins, 1370 euros.
Oui, je comprends. Je comprends que ça vous insurge et c'est normal. C'est normal parce qu'il y a
Mais non, c'est pas normal.
Il y a effectivement des injustices. Nous vivons dans une société très injuste. Mais peut-être qu'il faut vous remettre en question parfois. Alors je sais que...
Ah bah c'est pas sympa,
c'est
ça.
Très difficile à entendre.
Vous êtes au salon de l'agriculture, mais c'est
très
terrible.
Difficile à entendre.
Ah bah oui, c'est très difficile à entendre.
Moi, je suis prête à prendre les coups, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut changer les choses. Il faut réformer. Et sans vous, sans un engagement, et c'est aussi des sacrifices qu'on va attendre de votre part, nous n'y arriverons pas.
Très
nous
bien.
N'y arriverons
Alors,
pas.
Tu vas me donner un de tes entrepreneurs là, rouge. Par contre, tu vas gagner un super riche. Bonne nouvelle, les retraités ont adoré sur le chat ton entrée, donc tu gagnes encore une Karim gagne encore une voix, gagne un bleu, voilà. Donc,
la retraite à 60 ans, on y arrive les gars.
Tu lui prendras un rouge, et tu lui donnes un orange, voilà, parfait. Et tu donnes un bleu à Karim. Merci beaucoup. C'est à toi.
Oui.
Donne-moi un chiffre entre 1 et 5.
3.
Alors attends une seconde. 3. RIP Navalny.
J'ai rien compris.
Rest in peace,
oh là là,
Navalny.
Là là.
Alors, on va en parler dans 2 minutes.
Bah, je serais toi, je me barrais. Hein.
Non, mais tu peux dire, j'ai pas envie d'en parler. Ça me concerne.
Bien sûr,
pas.
Bien sûr.
Un peu avant les élections présidentielles de la Russie, au deuxième anniversaire du début du conflit avec l'Ukraine, l'opposant politique de Poutine, Navalny, déjà enfermé pour extrémisme dans un camp de travail, est retrouvé mort dans ce camp de travail. Dérive du régime, coïncidence, on ne sait pas. En France, une partie un peu difficile à quantifier des Français, très vocale sur Internet, sur les réseaux sociaux, défend Poutine, quoi qu'il arrive. Macron, quant à lui, déclare prudemment, mais pas trop, que cette mort est le signe d'une faiblesse du Kremlin. Donc, figure-toi que CNews, sans surprise, t'interview. Et c'est quoi ta position sur le conflit ukrainien ?
Ma position, c'est que la guerre, aujourd'hui, sépare des familles. Donc, on a une Russie et une Ukraine où les familles sont divisées. On a des enfants qui partent à la guerre. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Europe ait une position forte, que la France à l'intérieur de l'Europe ait une position forte par rapport au conflit. C'est pas normal de laisser ça perdurer et de laisser le conflit s'éterniser. Ma position, c'est que les familles des deux côtés sont en souffrance et que l'Europe ferme les yeux sur le conflit à l'heure actuelle.
Votre position, c'est que l'Europe ferme les yeux ?
Oui.
Ça veut dire quoi ? Vous voulez qu'elle ferme les yeux ou elle...
Non, elle est en train de le faire et je trouve ça scandaleux.
Vous voulez ouvrir les yeux de l'Europe,
oui.
C'est ça ?
Oui, oui. Okay.
Mais vous, président, vous, oui. Présidente, que feriez-vous à l'international ? Vous êtes présidente de la République demain, que faites-vous par rapport à la guerre en Ukraine ?
Moi, je pense que nous n'avons pas besoin de l'international. Je veux qu'on remette une armée forte en France, qu'on remette les moyens pour que la France soit souveraine. Aujourd'hui, elle n'est plus pleinement souveraine. Et c'est l'un des problèmes majeurs.
D'accord. Donc plus de politique internationale, parce que le président, c'est quand même la personne qui a la charge de la représentation à l'international de la France.
Bien sûr, mais je peux aller faire des visites à l'extérieur pour leur montrer la beauté de notre pays, il n'y a pas de problème.
D'accord, très bien. Beaucoup d'entreprises commercent indirectement avec la Russie, en passant par des pays tiers comme le Kyrgyzstan, etc. Des entreprises de France, d'Europe, du Royaume-Uni. Aujourd'hui, il y a un embargo, mais il y a des filouteries. Vous, présidente, est-ce que, là encore, vous fermez les yeux, vous dites « c'est pas mon problème ».
Non, là, c'est une honte. L'embargo, il doit être plus fort et les entreprises doivent relocaliser en France.
Donc l'embargo contre la Russie doit être
oui.
plus fort. Très bien. Ok, très bien. Merci. Merci, rien ne se passe. Mais merci pour votre avis très intéressant. Et enfin, Karim, donne-moi un...
Non, c'est mon tour.
Excuse-moi, quoi, pardon,
Fabien.
C'est à toi, c'est à Fabien, excuse-moi.
C'est à moi de jouer un peu.
Excuse-moi, Fabien, dis-moi.
Mais tu m'as dans le pif, j'ai senti. Alors oui, c'est combien ? 1 à 5
un nombre entre... Non, non, oulala, entre 1 et 60, ouais.
27, l'heure représente.
Qui est vraiment le candidat ? Relayé par QAnon France, une rumeur. Fabien et vous serez transgenre. Tu es née femme et tu as décidé de changer et de mener ta propre vie en tant qu'homme.
Ça, c'est la rumeur.
C'est la rumeur, ah. C'est pas la vérité. Enfin, après, je ne sais pas, c'est ta vie privée. Hein. Au début, c'est une rumeur reprise par quelques complotistes sur des groupes Facebook. Ça servait à rien, sinon, de faire de la publicité que de les relever. Et puis, alimentée par peut-être des forces étrangères, la rumeur s'amplifie, on voit des montages, des longues thèses écrites qui sont rationnellement absurdes. Mais ils disent, quand même, il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois. Alors, on n'a pas de problème avec les transgenres, disent les colporteurs de rumeurs. Simplement, comment voter pour quelqu'un qui ment sur ce qu'il est lui-même ? Souvenez-vous d'ailleurs ces casseroles. Donc aujourd'hui, on atteint un point où ton directeur de campagne te dit écoute, c'est gênant, on fait un tweet, il y a 10 000 personnes qui nous parlent de ça. On fait quoi ? Est-ce qu'on affronte le problème ou on l'enterre ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Non, on affronte le problème.
On affronte le problème. Alors, qu'est-ce que tu fais ?
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ferais bien une interview. Qui accepterait que ce soit...
Ah bah ça, c'est... tout le monde accepterait, même voilà. France 2. Hein.
Bah très bien.
Allez, France 2, 20h de France 2 ?
Non, une interview, je fais ça, genre Hugo décrypte.
Ah d'accord. Très bien.
Parce que je suis jeune.
Ouais, bien sûr.
Enfin, je suis jeune.
T'es reçu, alors je vais pas faire le roleplay Hugo décrypte, mais t'es reçu.
Ouais.
Hugo décrypte, voilà.
Moi-même, je suis en basket.
Bon alors ton un petit peu réservé, alors... Il y a cette rumeur et vous vouliez en parler aujourd'hui.
Oui, parce que là, je profite parce qu'on est sur Internet. Internet, ça peut être plein de choses extraordinaires. Internet, je sais que la jeunesse aussi s'engage sur Internet. Mais Internet, c'est aussi le lieu de toutes les rumeurs, de toutes les salissures. On sait d'ailleurs très bien d'où viennent ces rumeurs. Et parfois, c'est odieux. Parfois, il faut y répondre. Parfois, pas du tout. Là, il y a une rumeur qui tourne selon laquelle je serais une personne transgenre. Ce à quoi j'ai envie de répondre. 1. Et alors ? 2. En quoi ça vous regarde ce que j'ai entre les jambes ? Et courage à toutes les personnes qui luttent pour les droits des personnes trans, parce que il est temps aussi qu'on retrouve un petit peu de respect dans ce pays. Et 3. Faisons très attention au niveau du débat public dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien cette mécanique. On voit très bien d'où viennent les rumeurs. Elles peuvent venir de Russie, elles peuvent venir des réseaux d'extrême droite américains. On connaît très bien et on sait qui les relaie, par quels médias ça passe après. Et on voit d'où vient la tourbe là. Et voilà, c'est ça, c'est là-dessus que j'ai envie de dire aux jeunes, faites attention, c'est très bien de vous renseigner, vous renseignez-vous bien, mais il y a certainement un travail à faire sur les médias, un travail d'éducation à la jeunesse, et je te remercie Hugo de faire ce travail et de le faire très bien, tu le fais très bien Hugo.
Mais tu t'adresses et les bobos et les jeunes sont très sensibles à ton discours, bravo à toi.
On sait qui est notre public, hein.
Après, n'hésitez pas, c'est des billes pour vous dans les prochains débats. Le débat n'a pas encore lieu, mais et ça approche. En tout cas, c'est à toi, Marie-Caroline, de faire enfin un meeting. Est-ce que tu as une casserole ? T'en as pas ?
Non, je n'ai pas de casserole.
Bien. Donc, tu vas faire un meeting dans une grande ville. Donc, c'est compliqué de trouver, mais avec ton budget, tout ça, quand même beaucoup
bien
de budget. Donne-moi un nombre entre 1 et 30.
19.
19. Tu as beaucoup de chance. Puisque force de négociation, ton directeur de campagne t'a trouvé un meeting dans la quatrième ville la plus peuplée de France.
Toulouse.
Exactement, bravo. Ah, tu vois, déjà,
yes.
T'as gagné un point. Et là, on se bat pour 4 voix.
Ok.
Donc, il ne faut pas te louper. Donc, je vais te demander de faire un discours qui commence par le gentilé. Cher, par exemple, si tu es à Paris, c'est cher parisien. Alors, Toulouse, c'est facile, mais il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Mmh. Ensuite, tu vas dire... J'adore Toulouse parce que faut parler de Toulouse. Mm-hmm. Et ensuite, il faut dire le véritable problème de Toulouse, c'est ça. Et moi, j'apporte telle solution. Et enfin, s'il y a un discours, s'il y a un public délirant, tu gagnes une voix supplémentaire.
Bien sûr.
Je t'écoute.
Chers Toulousains, chères Toulousaines, je suis très fière d'être avec vous dans cette belle ville, la ville rose de Toulouse. Évidemment, moi, j'adore venir ici pour voir des matchs de rugby avec mes enfants. Donc, je suis très fière et très heureuse d'être là. L'un des problèmes majeurs quand même, malgré tout, de votre ville, c'est l'insécurité. Je sais que vous êtes à cran, je sais que la situation est parfois difficile, je sais que vous allez de plus en plus vers un vote qui est situé à l'extrême droite de désespoir. Moi, je viens vous apporter de l'espoir avec une droite dure,
traditionnel qui remet les valeurs familiales au centre du débat public. Je sais que ça vous parle, je sais que c'est important pour vous et je suis très fière de pouvoir vous apporter tout ça. Nous allons pouvoir après manger en bout ensemble à la buvette qui a été proposée par mes adhérents. J'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, voilà, nous allons passer du temps ensemble. C'est le plus important pour faire France, pour faire famille.
C'est un peu le rêve de tous les candidats qu'on a pu voir aujourd'hui. Un grand meeting, une salle comble, des militants passionnés, un beau discours retranscrit en direct à la télévision. Aujourd'hui, Marie-Caroline, la candidate à la présidentielle, a marqué beaucoup de points. Elle a gagné 5 voix. Voilà.
Waouh, c'est chaud.
C'est chaud. Et ensuite, ce sera donc à toi, Charlotte. Charlotte, dis-moi un nombre qui n'est pas 19, entre 1 et 30. T'as dit 30 ?
15.
15 ? 15 ! Ton directeur de campagne a réussi à louer une petite salle à Boulogne-Billancourt.
Nickel.
Boulogne-Billancourt, c'est l'avant-dernière ville de ma liste, mais au-dessus de Perpignan quand même, voilà. Tu vas te battre donc pour une voix, mais s'il y a une foule en délire derrière, tu vas pouvoir te battre encore plus. Donc, Boulogne-Billancourt, il va falloir dire cher et cher. J'adore votre ville parce que... Et je vais résoudre vos problèmes parce que... Vas-y.
Allez.
Chère Bolognaise, cher... Bolognais. Je mesure la chance que d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que Booba nous entend et je le salue. Parce que c'est vrai qu'à Boulby, si tu traces pas, tu survis pas. Donc je sais que vos principales, disons, inquiétudes relèvent de cette ville qui était autrefois une ville très riche, une ville où il était facile de se garer, de pouvoir ranger correctement son SUV. Eh bien, sachez que on va faire en sorte de vous retrouver de l'espace. Et pas pour des trottinettes électriques, pas pour des vélos cargo, non. On va retrouver l'espace d'une véritable ville de banlieue parisienne, digne de ce nom, où on a les moyens et on a le droit de le montrer. Parce que dans ce pays, il y a un semblant de honte pour celles et ceux qui gagnent bien leur vie, pour celles et ceux qui ont le courage de se lever tôt le matin pour payer un SUV. À quelle honte pour ça ? Pourquoi devrions-nous nous cacher ? Non. Je pense qu'il faut retrouver votre dignité. Et ce sera grâce à l'autorité et grâce à l'innovation. Donc, Boulby, ensemble, allons-y.
Merci. Tu gagnes 2 voix parce qu'il y a eu un applaudissement nourri. Ça s'est bien passé. Merci beaucoup, même malgré les Bolognais. C'est à toi, Fabien. Donne-moi un chiffre entre 1 et 30.
15.
Tu l'as déjà fait, c'est Boulogne-Billancourt.
14 alors, 14.
Eh bien, ce sera Annecy, ville de 128 000 habitants, que tu vas te rendre. Donc, cher...
Je connais pas.
Voilà, et c'est quoi le problème d'Annecy que tu vas résoudre ? Et c'est quoi les particularités d'Annecy ? Je t'écoute.
Chère Annecy-soir et chère Annecyaise, merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette ville dont je mesure l'importance. Une ville qui a un passé qu'on connaît, un passé de gauche, et qui pourtant est la ville d'où nous vient notre ancien président Emmanuel Macron, celui auquel il s'agit de succéder. C'est aussi la ville qui nous a donné François Ruffin. Et est-ce qu'on est condamné à la France qui oppose François Ruffin et Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il ne s'agit pas aussi aujourd'hui de tracer une autre voie ? Annecy peut être aussi le lieu de cela, et c'est pour ça que je suis avec vous.
Mais quel est le problème d'Annecy ?
Le problème d'Annecy, ce sont les inégalités. Parce que je vois les quartiers riches qui sont de plus en plus riches, et je vois aussi les quartiers pauvres qui aujourd'hui sont quartiers pauvres. Et voilà, c'est ça le problème. Donc les inégalités, c'est ça la vraie question aussi aujourd'hui, et on le voit, elle s'inscrit dans les territoires aussi aujourd'hui à Annecy.
Quelle solution vous proposez aux inégalités ?
Eh bien, tout simplement déjà redessiner la carte scolaire, parce qu'il faut penser à l'école, et le lycée privé de centre-ville, on connaît aussi sa population, on sait aussi l'état dans lequel sont les collèges et dans lequel sont les écoles primaires à Annecy quand ce sont celles pour les classes populaires. Et ça, c'est le ferment de notre démocratie, c'est le ferment de notre République que de proposer l'égalité républicaine. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais venir à Annecy et pourquoi je fais ce meeting là après avoir visité cette école primaire.
Il y en a un bon public, ils applaudissent tout le temps. Si vous le trouvez nul, il ne faut pas applaudir, hein, je vous le dis. Mais bon, a priori, ils te trouvent bien. Tu gagnes un précaire à retraiter. Et enfin, Karim, à toi, tu vas me donner un nombre entre 1 et 30.
13.
13. Eh bien, ce sera à Limoges, 131 000 habitants, que tu vas faire un discours, donc cher. Hein. Limoges, elle est connue, évidemment. Voilà. Et c'est quoi le problème de Limoges que tu vas résoudre? Nous t'écoutons.
Charlie Moujotte. Mais d'où que vous soyez, chers camarades, puisque vous êtes avant tout mes camarades, ravi d'être avec vous, ravi d'être parmi vous, pour revenir sur notre engagement principal de campagne, celui qui est en train de crever la France. Vous le connaissez, ce mal qui guette. Ces mots, ils sont nombreux. Les riches. Oui, notre engagement, on l'a dit. Taxer les riches. Taxer les riches pourquoi ? Taxer les riches pour redistribuer, taxer les riches pour
rendre. Excusez-moi, je vous interromps. C'est quoi le problème de Limoges que vous allez résoudre ?
Alors, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. C'est que porcelaine ou pas, les riches sont le problème. D'accord ? Au passage, je note que l'on me met dans le même camp qu'un certain monsieur et vous, en disant que l'on serait tous les deux d'une gauche, de la même gauche. Il n'y a qu'une seule gauche, vous l'avez bien vu d'ailleurs. Il vous a parlé d'Annecy en vous parlant de François Ruffin et d'Emmanuel Macron, alors que les deux viennent d'Amiens.
Ah ouais.
Ils ne connaissent pas son pays.
Ah ouais, Annecy, c'est la montagne. Il y a un festival.
Il ne connaît pas son pays et il ne vous connaît surtout pas vous, peuple français, peuple de France, avec qui nous allons tout faire pour taxer les riches et le rendre aux travailleurs. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'il vous a parlé d'une troisième voie. On la connaît, cette troisième voie. La troisième voie de en avant, la troisième voie des patriotes. C'est du pareil au même. Enfin, la parole rendue au peuple et l'argent rendu aux travailleurs.
Alors, c'était un très beau discours. Je te donne quand même qu'un seul précaire. Pourquoi ? Parce que bon, t'as pas abordé le problème de Limoges. C'est quoi le problème de Limoges ? Mais bon, c'est pas grave. Même si tu as eu un discours délirant qui t'a sauvé. Je m'adresse à ceux qui ont des casseroles, deux personnes ici. Est-ce que vous voulez faire une petite intervention télévisée pour vous débarrasser de cette casserole, sachant que ça peut être pire ? D'ailleurs, vous pouvez obtenir une casserole supplémentaire si toutefois ça se passe mal.
Oh, si, quand même, oui.
Tu as envie ?
Oui, je pense qu'il faut débarquer certaines choses.
Quelle chaîne de télé pour t'exprimer en terrain ami ?
Moi, je pense que j'irai sur TF1, là.
Alors, tu passes sur TF1. Au 20h de TF1, tu es reçu. On va parler de quoi ?
Du tweet à Johnny.
Voilà, donc... donc, tu es reçu à TF1 et on me dit, voilà, vous voulez revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, vous connaissez ma passion pour l'innovation. Vous savez que je suis très présente sur les réseaux sociaux. Bien que je suis très attentive à toutes les mots de passe, que je fais bien attention à mettre plusieurs caractères spéciaux. Faites attention, hein, vraiment.
Le arrobas, c'est ça ?
Notamment pour protéger mes comptes. Il se trouve que des intentions malveillantes, probablement venues de l'extérieur, je pense savoir d'où. D'ailleurs, il est probable que ce soit de la part de l'extrême droite, avec des hackers russes, qui aient hacké mon compte Twitter.
Donc c'est une accusation grave.
Pour mettre, c'est très grave ce qui se passe, et c'est pour ça que je voulais que vous soyez vigilants et vigilantes, pour mettre ce tweet qui m'a, moi, profondément choquée. Heureusement, mon équipe de campagne a réagi très très vite et l'a supprimé avant que ça fasse du mal aux proches de notre chanteur préféré. Il était écrit « Exilé fiscal, personne ne peut le regretter ». Et ça, moi, pour moi, c'est inacceptable. Déjà parce que Johnny a fait un choix. Oui, effectivement, il a décidé de partir. Mais combien sont-ils chaque année à quitter notre pays ? Parce qu'ils sont totalement asphyxié par le poids d'une fiscalité incompréhensible.
Donc vous êtes en train de dire finalement, poids... Johnny, c'est un, enfin l'évasion fiscale, c'est quelque chose, l'exil fiscal, c'est quelque chose de, enfin, de finalement
je
très ordinaire.
Je peux comprendre parce que, étant donné l'inégalité de notre système et notamment pour les plus riches, qui se retrouvent à payer beaucoup plus que les autres pour des personnes qui, quoi, ne veulent pas travailler, qui, quoi, ne veulent pas se lever le matin, qui, quoi, ne veulent pas... je ne sais pas.
D'accord, merci. Voilà. Merci. Alors, je vais me retourner.
Je veux juste terminer oui. sur quelque chose, s'il vous plaît. Se trouve que Johnny, moi, je le connais très bien. Je le connaissais. Épais à son âme. Il m'a invité plusieurs fois à Saint-Barthélemy. Et c'était fabuleux. Nous avons passé des moments incroyables ensemble. Alors, donc, jamais, au grand jamais, je n'aurais pu faire ça à ses fans et encore moins à sa famille.
Si vous croyez en la sincérité de Marie.
Charlotte.
De Charlotte, j'y arriverai. Je vais me retourner, vous levez un jaune. Si vous ne croyez pas du tout, vous levez une autre couleur. Voilà. Incroyable, tu n'as plus cette casserole. Extraordinaire. Et toi, est-ce que tu veux passer à la télévision ?
Oui, j'aime bien, oui. Oui.
Alors, tu passes sur quelle chaîne ?
Oh, une chaîne... France 2, un truc comme ça.
Allez, France 2.
Le 13h.
Allez, le 13h de France 2. On veut
le week-end.
On reçoit, à titre exceptionnel, aujourd'hui, au 13h, Fabien et vous, qui veut revenir sur un passage délicat de sa vie. On vous écoute.
Non, aussi, on lit énormément de choses. Alors, j'aurais écrit un livre avec un collaborateur qui aurait eu, en fait, un emploi fictif qui n'aurait pas été déclaré. C'est
oui,
ce qu'on peut lire.
C'est Mediapart.
C'est ce qu'on peut lire sur Mediapart. Et c'est un journal que je trouve évidemment excellent, qui révèle énormément de choses et qui souvent a déclenché des actions en justice après. Moi, je vous donne l'histoire telle qu'elle est. C'est-à-dire que ce collaborateur de la mairie m'a été présenté par des collaborateurs de la mairie. Je suis le maire de la plus grande ville de France. Est-ce que vous pensez sincèrement que je m'occupe des recrutements personnellement, que je m'occupe de qui fait quoi dans la mairie, etc. Ce n'est évidemment pas mon poste, il y a quelqu'un qui fait ça, c'est le secrétaire général de la mairie de Paris, et peut-être qu'il devra en répondre, je ne sais pas. Mais
la faute à vous, la faute au secrétaire.
Mais la justice dira qui est responsable. Le fait est que moi, je n'en avais aucune idée. C'était des séances que l'on faisait, comme ça, une après-midi de travail, d'écriture. Je n'avais aucune idée du reste des prérogatives qui étaient en jeu.
D'accord, très bien. Je vais me retourner. S'il y a une majorité de verts, tu n'auras plus ta casserole.
Aïe, 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 aïe.
C'est serré.
Je suis daltonien, donc j'en sais rien du tout.
C'est très serré. Aïe, aïe.
Non, on va dire que tu l'as encore. Hein,
parce ah
que
merde.
C'est pas franc. C'est le moment du débat. Je vais laisser la place à un journaliste appelé Léo Salami qui va vous introduire le sujet du débat. Dans ce débat... ce débat est très important parce qu'il va y avoir 4 voix qui vont être en jeu. Le vote du chat Twitch va peser et le thème c'est l'immigration.
Nickel.
On rappelle que l'alcool est à consommer avec modération.
Bonsoir. Hein, Monsieur Salami. Bonsoir. Je suis donc Léo Salami, journaliste en journalisme et expert en expertise. Et c'est moi qui vais introduire vos débats sur tous les sujets. Je peux le faire sur tous les sujets. Et pour parler de l'immigration, je vais un peu vous donner un panorama des arguments qu'on entend pour et qu'on entend contre dans le débat, et ensuite je vous laisserai débattre. L'immigration est au cœur du débat politique français depuis des années. On a des arguments en faveur de l'immigration, notamment un argument économique. Les immigrés contribuent à l'économie en comblant les postes dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, en payant des impôts et en stimulant la demande de biens et de services. On a aussi des arguments en faveur de l'immigration de nature démographique. Face au vieillissement de la population, l'immigration peut aider à maintenir la population active et soutenir le système de retraite. On a aussi un argument culturel. L'immigration enrichit la diversité culturelle, favorisant l'ouverture, l'innovation et le dynamisme dans la société. Et enfin, on a des arguments de type humanitaire. Offrir un refuge aux personnes qui fuient la guerre, la persécution ou la pauvreté, c'est quelque chose de conforme aux valeurs de solidarité et d'engagements internationaux de la France. Voilà pour les arguments pour l'immigration. Maintenant, il y a des arguments contre l'immigration, des arguments de type sociaux. Certains perçoivent l'immigration comme une source de concurrence pour des ressources limitées telles que l'emploi, le logement ou les services publics. Des arguments de type intégration. Des inquiétudes sur les difficultés d'intégration des immigrés peuvent alimenter des craintes d'une fragmentation sociale ou d'un choc des cultures. Des arguments de type sécuritaire. Des préoccupations sont soulevées quant à la possibilité que l'immigration puisse augmenter la criminalité et le risque d'attentat. Et enfin, des arguments contre l'immigration autour de l'identité nationale. Certains craignent que l'immigration massive ne menace l'identité culturelle et les valeurs traditionnelles de la France. Voilà pour ce parcours des différents arguments. Je vous laisse débattre.
Merci beaucoup, Léo. Voilà comment ça va se passer. Vous allez tous parler dans un ordre qui a été pris au hasard. Vous allez voir, il est pertinent. Et à la suite de votre première prise de parole, on va lancer un sondage sur le chat. Comme ça, il n'y a pas de réflexion. Écoutez bien le chat avant de dire « Ah, je vote pour cette personne », vous aussi d'ailleurs. Et ensuite, il y aura un deuxième passage dans lequel vous pourrez répondre à des gens en disant « Je ne suis pas d'accord. Vous respectez, on n'est pas sur CNews. Vous n'interrompez pas, vous ne coupez pas la parole. Par contre, vous pouvez faire une petite remarque de temps en temps. Voilà, vous avez droit au trait d'humour. Et c'est toi, Charlotte, qui va. Non, Marie-Caroline, qui va commencer. Je vais y arriver.
Ben voyons. Sur l'immigration.
Sur l'immigration.
D'accord.
J'y peux rien, ça a été pris au hasard. Oui, c'est pas facile. En plus, c'est la première fois que tu fais un jeu de rôle. Écoute, comme ça, tu auras fait le pire tout de suite. C'est parti.
Moi, je veux soigner la famille française, la France, d'un mal qui la ronge, le wokisme. Aujourd'hui, nous avons des camarades de gauche qui sont prêts à accueillir tout le monde. C'est ce qu'ils nous disent. Abolition des frontières, c'est ce qu'on entend à l'extrême gauche.
C'est bien vrai, ça.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on agrandit la famille française. Comment est-ce qu'on accueille les personnes qui souhaitent rentrer dans cette famille. Moi, je suis prête à agrandir la famille, mais il faut encore que les gens le souhaitent. Donc c'est l'enjeu majeur, je trouve, de cette question de l'immigration, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens aient envie de rejoindre la France et d'y adhérer. Et je pense que les valeurs familiales avec lesquelles on peut se retrouver pourraient plaire aux personnes issues de l'immigration qui sont aujourd'hui dans les territoires français. Ce que j'entends par là, c'est que moi j'ai une famille, ces personnes-là ont une famille, comment nous pouvons faire famille ensemble ?
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est d'axer les valeurs de la France par sa communication, par exemple, sur la famille.
Oui.
Et ça résoudra des problèmes liés à l'immigration.
Je pense
selon
que
vous.
Tout le monde souhaite avoir une famille, encore plus en France, vu le beau pays que nous avons.
Merci. Et ce sera ensuite à Fabien qui va donner son avis sur l'immigration. Est-ce qu'il y a un problème sur l'immigration selon vous en France ou pas ?
Moi, je voudrais
s'il y a un problème, quelle solution vous voulez apporter ?
J'aurais déjà donné mon avis sur le choix de ce thème de débat. En effet, beaucoup cherchent à déchirer les Français. Et c'est pas très dur en ce moment, je vois, qu'il y a une espèce de fièvre identitaire, une tenaille dans laquelle on est prise. Alors les uns jouent les juifs contre les musulmans contre les juifs, les noirs contre les blancs contre les noirs. La France, c'est pas une série de réunions non mixtes. La France, c'est la République. On est tous ensemble. Et j'ai envie de réhabiliter un mot qu'on a ringardisé. Et c'est honteux, parce que la France, au fond, c'est ça. La République, au fond, c'est ça. Je voudrais réhabiliter la notion de vivre ensemble. Mais bien sûr, mais vous riez.
Je t'ai vu venir.
Mais évidemment, mais parce que l'extrême droite, très souvent, va retourner en ridicule des choses qui pourtant ont fait notre force. C'est-à-dire, par exemple, les chances pour la France. On entend ça, ah tiens, l'immigration, ce serait pas une chance pour la France. Bien sûr que si, bien sûr que si, d'un point de vue démographique, par exemple. En effet, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, si ce n'est quoi restreindre le droit à l'avortement ? C'est comme ça qu'on va lutter contre le problème de la démographie dans ce pays. Je sais qu'il y a une de mes débatteuses en face qui pense à ce genre de solution.
Permettez-moi juste une question. Vous voulez établir le vivre ensemble, mais concrètement, c'est que vous
la
président...
La République.
Vous êtes passé une loi ?
Mais la République, c'est l'école. La République, c'est le service public. La République, ce sont des services publics qui fonctionnent, des hôpitaux qui fonctionnent. Il faut reparler aussi d'un autre beau mot qu'on n'entend plus dans le débat public. Le mot d'égalité. Bien sûr, l'égalité.
Non, mais certes, mais qu'est-ce que vous voulez faire concrètement ? Est-ce que vous voulez faire passer une loi ? Est-ce que vous voulez prendre une décision, changer ?
Mais non, bien sûr que non. Il y a une loi spécifique pour l'immigration. Il y a déjà des lois.
Donc pour vous, il
n'y
a pas
lois.
De problème et vous voulez juste
modifier. Bien sûr que non, il n'y a pas de problème.
Très bien. Mais écoutez, au moins, ça le mérite d'être clair. Je me tourne vers, je vais y arriver, Charlotte, c'est parti. Charlotte, dis-moi.
Bien. Moi, je pars du constat qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a ceux qui travaillent et ceux qui rapinent. Partant de ce constat, vous avez la ref, hein. Il me semble assez fondamental de rééquilibrer les flux migratoires.
D'accord.
Pour ce faire, j'aimerais proposer deux mesures fortes qui seront au cœur même de mon programme sur les questions migratoires. D'une part, organiser la rémigration de nos exilés fiscaux. Car oui, ces Français qui ont travaillé pour le bien de leur famille, de leur personne, mais aussi de la France, il faut qu'elles se sentent bienvenues chez nous. Et à cause du poids fiscal qui les asphyxie, elles sont obligées de partir. Donc moi, je souhaiterais, et je prends cet engagement ce soir devant vous, organiser leur retour. Parce que c'est une richesse pour notre pays. Alors, pour ce faire, j'en ai discuté avec mon prochain ministre de l'économie. Nous allons organiser, bien entendu, une grande loi pour supprimer les niches fiscales injustes dont bénéficient aujourd'hui les pauvres. Oui. Oui, nous allons faire ça.
Donc, le rééquilibre des flux migratoires par la fiscalité, c'est original.
Tout à fait. Et ça permettra d'assainir nos comptes publics et de respecter les règles du traité de Maastricht.
Très bien. Et on vous remercie avec ce discours.
Il y a une deuxième mesure, puisque j'ai promis deux mesures fortes. Organiser notre souveraineté démographique. C'est-à-dire permettre aux femmes d'être mères dans les meilleures conditions.
Elles me volent mon programme et vous ne dites rien.
J'organiserai pour cela toutes les mesures en faveur de la fécondité des Françaises. Nous ferons tout pour pouvoir donner à nouveau à la France des bébés et des bébés français.
Vous, présidente, Johnny serait revenu en France.
Oui, et il serait papa.
Et je me tourne vers Karim. L'immigration, est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus ?
Je suis déjà ravi de voir qu'on a encore une fois la preuve, après cette coalition entre la majorité présidentielle et l'extrême droite, sur la loi asile-immigration, il y a quelques mois, on peut le voir encore une fois, ils se battent parce qu'ils défendent le même projet.
C'est vous, vous êtes les mêmes, les extrêmes, les mêmes.
Et quand vous dites « ils », vous êtes, vous parlez de qui ? Des Noirs et des Arabes, ceux qu'ils pointent toujours du doigt. Ces mêmes Noirs et Arabes qui sont venus pour reconstruire la France. Ces mêmes Noirs et Arabes qui sont aujourd'hui en train de faire tout, de prendre tous les postes que les autres ne veulent pas prendre. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être français ? Est-ce qu'être français, c'est avoir des papiers français ? Ou c'est se sentir français ? Être français, c'est monsieur et vous. C'est toi, plus moi, plus eux, plus ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez.
Merci.
Je n'ai pas fini.
Donc l'ouverture des frontières ?
Je veux pointer plusieurs choses. La première chose, c'est que oui, nous devons accueillir. C'est notre rôle traditionnel, celui de la France, d'accueillir, mais nous accueillons mal. Donc deux propositions,
oui.
Trois propositions.
Enfin des propositions.
Trois propositions. Un,
j'en ai fait.
Abolissons Frontex. Frontex qui n'est qu'une pure arnaque pour tuer aujourd'hui des migrants en pleine mer. Deuxième proposition, 5 milliards sur la table pour améliorer l'accueil de nos réfugiés en France. Et enfin, la régularisation de tous les travailleurs sans papier.
Ok. Excusez-moi, vous avez dit 5 millions ou 5 milliards ?
5 milliards.
Très bien. Je retourne vers à nouveau Marie-Caroline. Marie-Caroline, est-ce que vous voulez réagir à un de vos intervenants, un de vos concurrents finalement ?
En fait, moi, là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas les vraies questions qui sont posées, qui sont les valeurs de la France. On fait de la démagogie, on ne pose pas, bon, on balance 5 milliards, voilà, bon, il y a des questions économiques qui sont à demi-mot abordées. Les évadés fiscaux, quel est le rapport avec l'immigration ? Je ne vois toujours pas aucune cohérence dans cette majorité. Moi, le problème, encore une fois, c'est
vous avez pourtant voté notre budget.
Qui sont les personnes issues de l'immigration aujourd'hui ? Qui sont les immigrés ? C'est ce sujet-là, pour moi, qui est majeur. Et comment est-ce qu'on les fait adhérer au projet français ? Je suis d'accord avec vous qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui pour la France et qu'on pourrait régulariser, mais je ne suis pas forcément d'accord d'ouvrir les portes à tout. Qui travaille et qui mérite aujourd'hui d'être régularisé ? C'est ça la question.
Donc vous, président, vous voulez identifier finalement les gens et accepter ou refuser les gens selon quels critères ?
Les critères, ils sont à donner aux préfectures, avec un travail de terrain qui est fait de manière magnifique par nos préfets.
Nous le faisons donc, déjà.
Qui est déjà fait, mais qu'il faut renforcer. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont des OQTF et qui ne quittent pas le territoire. Donc au bout d'un moment, il faut prendre aussi ses responsabilités. Les critères, ils doivent être ajustés de manière beaucoup plus crédible. Et il faut respecter la loi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis.
Très bien. En fait, je me suis tourné vers Marie-Caroline, mais qui veut réagir ?
Je veux bien réagir, s'il vous plaît, parce que vraiment,
ce sera votre deuxième, deuxième et dernière réaction. Et la régie, les chats, le vote,
écoutez,
quand vous voulez.
Moi, ce qui me met hors de moi maintenant, c'est de constater que les autres candidats n'ont aucune notion de gouverner. Ils sont incapables. On voit bien qu'ils sont dans des utopies.
Et je dirige la plus grande ville du pays, mais oui,
oui,
bien
mais
sûr.
Enfin bon, vous avez vu comment vous la dirigez. Alors tout le monde se plaint. Hein, et après, c'est vers l'État qu'on se retourne.
Bien sûr.
Bien. Tout ce qu'on constate, c'est que quand il y en a un qui parle de 5 milliards d'euros, mais où va-t-on chercher l'argent ?
Chez Johnny Hallyday.
Quand il y en a. Laissez ce pauvre homme. Encore tout chaud.
Oh la border celle-ci.
Ça va. On voit bien, laissez-moi s'il vous plaît parler, vraiment c'est insupportable,
oui, c'est
insupportable.
Vrai.
Déjà on voit très bien que l'extrême droite, extrême gauche, c'est la même chose, on voit très bien que de toute façon ils sont dans des logiques d'obsession, des choses qui sont à peine chiffrables, enfin vraiment j'aimerais bien voir la gueule de votre budget parce que je m'inquiète. Hein. On voit qu'à
votre budget en liquide pour cet appartement payé en cash et vous venez de nous donner des leçons de budget.
Est-ce que je peux continuer à parler, monsieur ?
Oui, mais pas trop longtemps parce qu'il va falloir qu'on abrège.
Merci, mais si il ne cesse de me couper la parole,
allons-y,
comment
Charlotte.
Fait-on le décompte correctement ?
Allons-y.
Donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que il y a de l'obsession à droite comme à gauche. Et moi, ce que je cherche à remettre, des obsessions idéologiques, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'essaie de remettre du pragmatisme dans notre logique de gouverner. Il faut que l'on soit en capacité. Nous ne pouvons plus mentir aux Françaises et aux Français. Il faut leur montrer que nous sommes en capacité de gouverner.
D'accord.
Que les autres proposent des choses qui ne sont pas tenables, ni pour les Français, ni pour celles et ceux qui cherchent à venir en France. C'est des mensonges que de dire que nous pouvons accueillir toute la misère du monde. C'est des mensonges que de dire que nous pouvons totalement fermer les flux migratoires. Ça n'a pas de sens. Donc faisons en sorte d'être réalistes et de faire les choses correctement. Par ailleurs, je vois très bien que la candidate d'extrême droite essaie de reprendre notre bilan. C'est-à-dire qu'elle parle des préfectures qui ont des critères. Nous les avons mis en place.
Vous avez le droit d'être d'accord.
On ne peut rien faire. Non, nous ne sommes pas d'accord. Pas d'accord de se faire voler nos propositions.
Très bien.
Et notre
Merci
travail.
Beaucoup. Fabien, il voulait réagir. Fabien.
Oui, non, mais évidemment, là, on voit bien que ce débat lui-même charrie tout un tas d'excès, d'emportement. Alors moi, j'aime beaucoup les accents tribuniciens de mon camarade. Évidemment, ça me parle, bien sûr.
Et vous n'êtes pas un camarade.
Bien sûr, bien sûr. Pour ce qui est de Frontex, par exemple, on a quand même des accords avec nos partenaires européens et il est évident que les problèmes de migration ne sont pas des problèmes qu'on peut gérer
c'est pas
de manière
ce que vous dites dans votre biographie,
nationale.
Hein.
Bon. Oui. C'est évidemment qu'il faut s'entendre avec nos partenaires
mais peut-être
européens.
Peut-être que vous ne l'avez pas écrite.
Notamment parce que c'est comme ça qu'on pourra faire un accueil digne pour ceux que nous allons accueillir. Et après, pour ce qui est du montant de l'accueil, en effet, il faudrait améliorer les conditions
d'accueil. Vous l'avez chiffré
Ceci
dans votre
dit,
livre. Vous n'avez
oui,
pas écrit
bon
votre livre.
C'est bon ? Vous avez fini votre numéro ? Bon. Et j'aimerais revenir au fait qu'en effet ces débats nous divisent. Et plutôt que de chercher qui on est, qui les racines, les couleurs, regardez les couleurs des peaux des gens.
S'il vous plaît, Charlotte.
La question c'est où on va, qu'est-ce qu'on construit. Il faut regarder de l'avant et qu'est-ce qu'on construit, quel avenir on veut construire.
En avant.
Et on a la transition écologique. Et là, la transition écologique, les changements climatiques ne regardent pas la couleur de peau des gens. Hein. C'est tout le monde, tous ensemble. Et il faut se retrousser les manches et arrêter aussi de se dresser les uns contre les autres.
C'est magnifique. Merci. Et Karim ? Sous les applaudissements pour Fabien, oui, vas-y.
Applaudissements timides, hein, quand même. Il s'agit de le rappeler. Qu'est-ce qui se passe là autour de la table ? On a la bataille à qui sera le plus facho à ma gauche.
Oh, alors là, je ne vous permets pas.
On a la bataille de oui, mais on va prendre des petites mesurettes et puis on va appeler nos copains européens, etc.
Vous savez que ce que vous dites tombe sous le coup de la loi. Voilà.
Vous voulez porter plainte ou pas
Je pense, oui.
D'accord.
On se retrouvera donc au tribunal. J'ai déjà une plainte pour apologie du terrorisme sur le dos, malheureusement. Tout ça pour vous dire, on est en train donc de parler d'immigration alors qu'en réalité, on doit juste respecter la tradition française qui est celle de l'accueil.
Vous parlez de tradition française.
S'il vous plaît, Charlotte.
C'est insupportable, ça.
Surtout, vous le plaignez d'être coupé.
Mais c'est pour ça que je le fais.
Mais nous parlons d'immigration. Alors que l'on se trompe de débat, on est encore en train de crever la dalle. Plus au 15 du mois, comme on disait, mais au 5 du mois. Notre planète est en train de crever. Regardez ce qu'on va léguer à la jeunesse. Je rappelle que mon livre « Pour les jeunesses, par les jeunesses » est disponible aux éditions Malek délégué.
Merci. Un débat sur l'immigration. On n'a pas beaucoup parlé immigration. Je vais me retourner. Vous allez lever la couleur de la personne que vous avez le plus convaincue, s'il vous plaît. Eh bien, Charlotte a répondu. Alors, il se trouve que le chat Twitch a plébiscité de peu Karim, qui gagne 4 voix. Et Charlotte gagne non seulement 2 voix pour le vote du public, mais en plus, elle a le droit de prendre une voix à Fabien pour avoir glissé son histoire de... Voilà. Ah. La voix de la couleur que tu veux. Voilà, tu...
Moi, je choisis la couleur.
C'est toi qui choisis, oui.
Ah, c'est... Non, c'est moi.
Non, mais il a dit que c'est moi. je vais te donner des retraités.
Ouais, ouais, vas-y.
Non, j'en ai pas beaucoup. De précaires, là. Non.
Bah non.
C'est quoi noir?
C'est les bobos.
Oui, c'est bien ça.
C'est les miens, les bobos, ok. Très bien, pour des retraités, alors.
Allez, c'est parti. Et nous repartons sur la campagne présidentielle ne s'arrête jamais. Je me tourne vers Marie-Caroline et je te demande un nombre entre 1 et 60.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.